toujours une dynamique, le tien les écarts à vlai. Nous sommes le mardi 3 janvier 2023 et nous sommes heureux de nous retrouver encore dans ce studio avec vous, sans doute très nombreux à nous écouter sur les zones de Canal FM et de ses médias partenaires à Anekho, à Takpame, Sokodé, Bassar, Baga, Niamtougou, Dapan, mais également sur les zones par le biais des médias numériques, vous qui êtes en communion avec nous dans le monde entier, dans différents pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques, d'Asie, d'Océanie, sur toutes les îles. Nous vous formulons en ce début d'année nos vœux de bonne santé, de paix dans vos cœurs et autour de vous, de sécurité dans notre pays et dans la sous-région pour que prospèrent nos initiatives, nos entreprises publiques, collectives et personnelles. Du sommet de l'État, du président de la République et du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du système judiciaire, des forces de défense de sécurité, aux citoyens lambda, en passant par les partis, les formations politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, les employeurs publics, parapublics et privés, les écoles et centres de formation, les syndicats et également nous, les médias, nous souhaitons une vie nationale très active avec des débats et des réflexions hardies, dynamiques et constructives. À la technique, le duo d'Atevi Thomas et Jérôme Dakoucha. Au menu du Club de la Presse aujourd'hui, vous en doutez, c'est les vœux pour la nation togolaise tout au long de l'année 2023. Nous l'avons dit tantôt, du chef de l'État jusqu'à nous, citoyens anonymes, quel Togo voulons-nous cette année? Quelles seront les priorités et les centres d'intérêt du gouvernement? Quel sera l'agenda républicain et institutionnel? Quelles sont les attentes de vous autres et de nous tous, les citoyens lambda? Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur le coup de 12 heures avec nos deux numéros qui n'ont pas changé, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75, et vous aurez à vous adresser à celui que vous aurez écouté durant une bonne partie de l'émission. Il s'agit du professeur Akoda Ayewadan. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Dieu fait bien les choses. Le tout premier numéro du Club de la Presse, c'est avec vous que nous l'animons, monsieur le ministre.
Vous m'envoyez très honoré et je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez.
Merci, monsieur le ministre. Je sais compter sur vous pour nous économiser un peu de temps pour que nous puissions inviter un ami d'une association caritative chrétienne. Je vais vous laisser le présenter vous-même. Bonjour, cher ami.
Bonjour.
Vous représentez
l'association Jésus Miséricordieux.
Et vous êtes porteur d'un projet caritatif humanitaire.
Exact.
Il
s'agit de la soirée de la miséricorde.
Et ce sera pour
ce samedi, le 7 janvier 2023.
L'objectif, ce sera?
L'objectif, c'est de trouver les fonds nécessaires pour acheter une table de réanimation avec un but pour les nouveaux-nés à Dahi.
Voilà, trouver une table de réanimation pour nouveaux-nés avec un ambu dans un centre de santé un peu perdu dans le Togo profond à Dahi.
Oui.
Merci d'être là pour nous en parler. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, Sass.
Eh bien, comme c'est une tradition, nous choisissons une pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est François de la Rochefoucauld qui a écrit que il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Encore une fois, nous formulons beaucoup de vœux, mais cet écrivain nous rappelle que nous devons tenir à nos différentes résolutions parce qu'elles sont bonnes et non pas seulement parce que nous avons pris ces résolutions. Mais monsieur le ministre, actualité oblige, pendant que nous sommes dans ce studio, toute la planète Terre pleure deux figures emblématiques. Il s'agit de Edson Arantes do Nascimento, que nous connaissons beaucoup plus sous le pseudonyme de Pelé. Il va être inhumé aujourd'hui même. quelque part dans sa ville proche de Sao Paulo, et le monde chrétien catholique pleure également un grand homme. Il s'agit de celui qui est entré dans l'histoire comme le pape émérite Benoît XVI, qui est veillé à la place Saint-Pierre de Rome et qui sera enterré le jeudi prochain. Monsieur le ministre, pour l'un ou l'autre, peut-être une pensée?
Alors, nous avons deux figures, effectivement, qui viennent de s'éteindre. La première, je parle de Pelé, qui n'a certainement pas inventé le football, mais qui incarne le mieux le football comme on l'adore, c'est-à-dire un football fait de joie, de rassemblement, de cohésion. Donc on perd là une très très grande figure du football, moi je dirais le meilleur footballeur de tous les temps. Et concernant le pape, on a ici aussi un personnage particulier, atypique, qui a eu le courage de se retirer, alors même qu'il sentait qu'il n'avait plus la force de continuer son ministère, et a démontré ainsi une force de caractère particulière sur lequel on doit s'inspirer pour pouvoir avancer. Donc deux vraies figures de notre siècle.
Merci Monsieur le ministre. C'est la saison des vœux avec des souhaits que nous formulons de tous les côtés. Mais pour ce qui est du Togo, c'était en fin de journée du 31 décembre 2022 que le président de la République nous a adressé ses vœux qui continuent à être distribués comme de petits pains, commentés dans tous les sens. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. C'est à ce titre que nous vous avons invité afin que vous nous aidiez à creuser davantage le message du chef de l'État et peut-être à nous donner certains développements qu'il n'a pas pu avoir le temps de nous dire dans son message. Deux journaux parus aujourd'hui le mettent à leur manchette. Le médium qui écrit « Politique, discours, Fornyasingbe, fort » ou bien « Fornyasingbe, faire face au terrorisme » pendant que l'Union titre lui « Voie de sortie des incertitudes en 2023 ». Fort Nyasingbe rappelle la devise du Togo « Travail, liberté, patrie ». Le chef de l'État, il a abordé beaucoup de sujets. Commençons par celui qui a pris une bonne partie de son discours, à savoir les défis de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nul n'est besoin de rappeler le discours, sinon quand même quelques extraits. Quand le chef de l'État parlait dans son discours de l'engagement de la nation togolaise tout entière à ne céder aucune portion de notre territoire, il a dit que lui-même et tous les Togolais vont tout mettre en œuvre pour défendre la patrie togolaise agressée par l'extrémisme violent et le terrorisme, et que ces forces seront défaites aux portes du Togo. Alors, au-delà de ces mots très forts, qu'est-ce que Fort Nyasingbe met dans cet engagement à intensifier davantage la lutte contre le terrorisme?
Il me semble que sur le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut d'abord noter qu'il s'agissait d'un rendez-vous pris avec le peuple togolais, un rendez-vous républicain en fin d'année. Et ce texte, qui est particulièrement charpenté, doit être lu avec en surbrillance le contexte. Il ne nous faut pas séparer le texte du contexte. Aujourd'hui, nous avons un pays, le nôtre, qui est aux prises avec des événements qui sont d'abord des événements importés. La situation terroriste que nous vivons aujourd'hui est une situation qui attaque quasiment toute la sous-région et met en péril la stabilité des États, leur développement économique, l'épanouissement des populations. Et de plus en plus, notamment l'année dernière, notre frontière nord a subi ces attaques extrêmement violentes. Nous avons ici des personnes qui veulent semer la terreur au sein de nos populations, nous empêcher de vivre, de nous épanouir. Et dans cet élan de violence, de barbarie, nous avons perdu certains de nos compatriotes. Nous avons perdu certains de nos compatriotes, nous en avons qui sont blessés et qui aujourd'hui sont aux soins. Donc, le président de la République a d'abord identifié cette situation, présenté sa compassion à ceux qui sont blessés et ses condoléances à ceux qui sont décédés. Mais de suite, il n'a pas manqué de nous exhorter à nous mobiliser parce qu'en réalité, il s'agit d'une guerre que nous menons. Il s'agit d'une guerre que nous menons.
Plutôt une guerre que les gens nous imposent.
Asymétrique de surcroît et à laquelle nous sommes obligés de faire face. De façon subliminale, ce que le chef de l'État voudrait dire, c'est que, et c'est une expression que je vais emprunter aux militaires, les militaires, ce sont des civils en mission. C'est des gens comme vous et moi qui sont en mission. Les civils que nous sommes comme des militaires en permission. Ce qui veut dire qu'il nous faut une collaboration de tous les instants, parce que ceux qui sont au front ne sont pas différents de nous. Ils ont certes une formation, mais ce sont nos frères, nos sœurs. Leurs enfants sont chez nous pendant qu'ils sont au front. Donc nous devons rester extrêmement solidaires, extrêmement courageux pour faire en sorte que cet ennemi ne puisse pas s'installer sur notre territoire. Donc le chef de l'État a promis, et il est au-devant, il est le chef suprême des armées, il a promis que tous les moyens seront mis à la disposition de ceux qui sont au front en termes de capacité stratégique, en termes de capacité opérationnelle. Cela a déjà commencé avec la loi de programmation militaire 2021-2025 pour que nos frères et sœurs aient les moyens d'abord de se défendre et de défendre notre patrie. Donc nous sommes face à une situation difficile. C'est vrai que lorsqu'on est à Lomé, lorsqu'on est ailleurs que sur le front, on ne se rend pas compte de la gravité de la situation, de l'intensité de cette situation qui est vécue au quotidien par certains de nos compatriotes et par nos forces de défense et de sécurité que je voudrais ici encore saluer pour leur dévouement, leur disponibilité et leur courage.
Merci Monsieur le Ministre, mais la réalité sur le terrain s'est imposée encore une fois au chef de l'État et à nous tous. Quelques heures après son message, des informations laissent entendre que dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, notre pays a encore assué des attaques au Grand Nord dans les localités de Lioli et consorts. On déplorerait encore des blessés, voire même des morts. C'est dire que la réalité est toujours là, qui s'impose à nous. Et puis, on a vu, quand ça a commencé au Mali et au Burkina, nous le voyons de loin, mais quand ce danger s'est vraiment introduit au sein des communautés, on en voit les conséquences. Alors, quel est l'engagement que le gouvernement prend à ce que le terrorisme reste une force étrangère et que ne s'introduise pas dans nos communautés au nord du Togo?
Le premier engagement, et il est perceptible dans le discours du chef de l'État, c'est que ces forces ne s'installeront pas sur notre territoire. Mmh. Il peut y avoir des incursions, comme on le note ça et là, mais ces terroristes ne s'installeront pas sur notre territoire. C'est le premier engagement. Mais, vous le savez, le terrorisme prend corps parfois dans les communautés. Et ces communautés peuvent être perméables à ce discours lorsqu'il n'y a pas d'État. Et nous, aujourd'hui, sous le leadership du chef de l'État, l'ambition, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'État partout sur le territoire togolais. Et cela se manifeste de différentes façons. La dimension sécuritaire, évidemment, est une réponse immédiate. Mais en lame de fond, il y a un travail social très important qui se fait au quotidien dans ces régions-là. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il a été impulsé le programme d'urgence pour la résilience des savanes. Mmh. Et c'est un programme qui porte ses fruits. Aujourd'hui, il y a eu un travail massif qui a été réalisé sur l'adduction d'eau pour que ces populations aient un accès facile à l'eau. Mmh. Et ceux qui connaissent le terrain savent que, au regard de l'implantation asymétrique des populations, mettre de l'eau à disposition, par exemple, est un défi permanent. La question de l'électricité, parce que lorsqu'il y a de la lumière, évidemment, les forces du ténèbre ou les ténèbres s'éloignent et on peut impulser un développement. Avec le programme
d'urgence pour la résilience des savanes.
Il y a un effort très important qui a été fait sur l'électrification de ces zones-là. Les routes ont été réhabilitées, des ponts construits, oui. Des salles de classe construite et réhabilitée. N'oublions pas que cette situation a amené des déplacés tant internes que des déplacés qui viennent du Burkina. Et l'État accompagne tout ce beau monde-là avec des moyens conséquents pour faire en sorte que partout dans les communautés, tous les Togolais qui y vivent sachent qu'ils sont partis d'une nation et que la nation est à leur côté au quotidien.
Merci. Le Togo qui a érigé des barrières afin d'empêcher que ces forces ne viennent s'installer durablement dans nos sociétés. La lutte se mène sur le plan militaire, mais également en apportant des solutions aux préoccupations des populations. Vous l'avez dit, faciliter l'accès à l'eau potable, à l'électricité, construire des infrastructures sanitaires et éducatives, entretenir, tracer des pistes rurales pour que ces compatriotes se sentent réellement connectés à toutes les nations. Mais, monsieur le ministre, la lutte contre le phénomène, la guerre nous vient de l'extérieur, et notamment la région de Savane est exposée aux frontières voisines du Bénin, surtout du Burkina. Alors, cela appelle à une action concertée sous-régional. Alors, comment est-ce que le gouvernement entrevoit cela?
Alors, depuis l'année dernière, il y a eu plusieurs initiatives de regroupement des chefs d'État de notre sous-région ou sous-sous-région plus proche. Je pense ici au Ghana, à la Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, qui se sont retrouvés pour discuter des voies et moyens nous permettant d'avoir une réponse concertée, parce que le phénomène étant diffus, asymétrique, je le répète encore, il nous faut une réponse concertée. Et les chefs d'État ont pris l'engagement, d'ailleurs la dernière fois au sommet, de mettre en place une structure, une force, un tampon, pour pouvoir répondre à ce phénomène terroriste. Donc la clé ici reste la concertation entre les États, parce que chaque État a sa souveraineté, a d'abord une politique interne pour lutter, mais le dialogue entre les chefs d'État permet de construire une réponse collective, une réponse concertée. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que la réponse qui est proposée ici est une réponse endogène. Nous sommes concernés directement. Nous savons plus ou moins ceux à qui nous avons affaire et nous connaissons nos forces. C'est à partir de là que nous pouvons construire une réponse de surcroît concertée pour adresser cette difficulté qui nous empêche de progresser comme nous le souhaiterions.
Merci. Je rappelle donc l'initiative d'Accra, la CEDEAO et puis ce que la communauté internationale envisage, sinon pense pour éradiquer durablement ce phénomène. Monsieur le ministre, pour terminer avec le sujet, nous, les médias, depuis quelque temps, nous avons une certaine difficulté. Il y a encore des attaques qui se produisent sur notre territoire. Or, le gouvernement ne communique plus, les forces armées togolaises encore moins, si bien que quand nous avons des informations sur le terrain, nous avons quelques difficultés à les diffuser du moment où nous n'avons pas l'information officielle pour vérifier. Je sais que à une situation de guerre, il y a un comportement de guerre, mais est-ce que le gouvernement ne nous faciliterait pas en diffusant des communiqués officiels? Comme ça, nous pourrions toujours les commenter et les compléter au besoin.
Alors, vous l'avez dit, nous sommes dans une situation de guerre et la communication est une arme qu'il ne faut pas négliger dans une situation de guerre. Nous sommes face à un adversaire que nous ne maîtrisons pas et qui a tendance parfois à manipuler les informations. Il est vrai qu'il y a eu des situations, des incidents ici et là, et le choix de communication du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la sécurité de nos militaires sur le front soit préservée. Donc, un certain nombre d'informations seront communiquées en temps et en heure par les autorités militaires notamment, lorsque celles-ci sont utiles pour informer la population. Maintenant, si ces informations-là ne sont pas utiles pour informer la population, il est possible qu'il n'y ait pas d'éléments dessus, puisque il ne nous sert à rien de donner des billes à nos adversaires pour nous attaquer.
Merci. La crise n'est pas que sécuritaire, elle est également sanitaire. Avec le nouveau coronavirus qui connaît un certain regain depuis la Chine, et certains pays déjà qui commencent à prendre des dispositions. Mais la crise, elle est également économique. Déclinant de cette guerre que la Russie mène en Ukraine, et dont les impacts arrivent chez nous ici. La crise, elle est aussi climatique. Hein, avec le dérèglement climatique, les changements et consorts, elle risque d'être également alimentaire. Tout cela, le chef de l'État en est conscient, d'autant plus que ces différentes crises ont des impacts négatifs sur les économies, l'économie de notre pays et les finances publiques des États dans le nôtre. Et de ce constat, le chef de l'État est conscient des réponses également qu'il faut apporter.
Alors, vous avez cité les multiples crises qui nous impactent. Et la plupart d'entre elles sont des crises qui, là aussi, sont des crises importées. En Ukraine, ça fait bientôt un an que la guerre dure, avec des conséquences dramatiques sur les échanges internationaux. La crise sanitaire, Dieu merci, pour le moment, elle est jugulée plus ou moins dans notre pays. Mais la résurgence de la Covid en Chine nous impose d'être extrêmement vigilants, d'être en alerte au regard de nos mécanismes de réponse et de riposte. Donc tout cela nécessite une adaptation de la trajectoire pour ne pas être surpris. Mais ce qu'il faut noter, malgré toutes ces crises-là, c'est que notre pays résiste quand même mieux à ces crises. On a eu un niveau de résilience qui nous permet de ne pas chuter complètement face à ces différentes crises. Donc le chef de l'État exhorte à maintenir le cap de cette résilience en activant différents leviers. Aujourd'hui, face aux crises, les réponses doivent être endogènes. Ce qui veut dire que dans notre pays, nous devons d'abord nous interroger sur notre capacité à produire de la richesse pour pouvoir nous satisfaire à nos besoins avant de nous projeter vers l'extérieur, puisque les crises ferment plus ou moins les frontières. Donc le premier challenge peut être celui de l'agriculture. Et avec la création de l'Agence pour l'agriculture, il y a une organisation plus pointue désormais dans la stimulation de notre production, de notre productivité agricole. Mm-hmm. Vous savez, depuis quelques années, un certain nombre de projets sont en cours, notamment avec les ZAP, notamment avec la création.
Là, vous évoquez les zones agricoles aménagées, privilégiées.
C'est ça. Pour l'agriculture, pour les structures coopératives qui sont désormais là aussi promues, en finançant un certain nombre de jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole, nous avons ici le levier pour pouvoir nous éviter d'avoir à nous tourner vers l'extérieur pour au moins ne serait-ce que l'alimentaire. Donc le chef de l'État a insisté lourdement là-dessus. Les investissements vont continuer. Les accompagnements de l'État vont continuer. Et l'objectif, c'est d'accroître notre productivité. Mais le secteur agricole n'est pas le seul. Il faut penser aussi au secteur industriel, de la transformation. Mm-hmm. L'un des défis que nous avions, c'était notre incapacité à transformer nos produits. Et on le sait tous, lorsque l'on transforme, on apporte une plus-value. Et cette plus-value permet au produit d'avoir plus de valeur que le produit initial. Donc, on l'a vu avec la plateforme industrielle d'Adeticopé notamment, qui a permis à 1800 personnes de trouver un emploi, qui permet la formation de certains de nos concitoyens. Il y a des unités de transformation qui sont installées sur cette plateforme, mmh, et sur toute l'étendue du territoire, on a des unités de transformation qui se mettent en place. Donc, en substance, le discours du chef de l'État, c'est de dire simplement que nous devons d'abord compter sur nos propres forces, mmh, et il ne faut pas le négliger. Nous devons nous discipliner, nous organiser pour produire et répondre à nos besoins.
Merci. Alors, continuons à promouvoir l'agriculture par les intrants. Bientôt, on va mieux maîtriser la filière de l'eau, notamment les irrigations et toute la mécanisation. En même temps, encourager la transformation, notamment la création de l'agence de transformation agricole qui vise à accélérer le développement de ce secteur stratégique de notre économie. Mais ces transformations, ces réformes ne manquent pas de produire quelques difficultés, quelques perturbations, comme le chef de l'État lui-même l'a reconnu pour la filière soja. Alors, qu'est-ce qui est fait pour anticiper justement de telles dérèglement qui suscite un peu de commentaires dans l'opinion.
Alors, sur la filière soja aujourd'hui, on est sur une filière qui est une filière attractive, une filière qui, sur un cycle court, permet d'avoir une production qui est intéressante. Elle est plus ou moins nouvelle dans son ampleur pour nos concitoyens. Donc nous apprenons, nous tirons les leçons des difficultés que l'on peut rencontrer et au fur et à mesure, le tir est corrigé. La filière soja aujourd'hui, elle a le vent en poupe parce qu'elle nous permet justement de créer de la richesse. Une unité de transformation est en train de s'installer sur la plateforme industrielle d'Adetikopé qui va permettre de créer, de produire des tourteaux et de l'huile de soja. Cela nous permet de ne plus exporter exclusivement le soja non transformé. Donc, sur cette filière-là, je pense que nous tirons les leçons de ce boom et nous ajustons au fur et à mesure la trajectoire pour avoir des résultats meilleurs.
Et probablement éviter que ce boom en faveur du soja ne se fasse au détriment des autres cultures comme le coton et surtout les céréales qui sont nos denrées de consommation courante.
Alors, sur les céréales, je n'ai pas de crainte. Je n'ai véritablement pas de crainte parce que je sais que le ministère de l'Agriculture sécurise des surfaces pour nous permettre de pouvoir produire, ne serait-ce que pour notre propre consommation. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Pour le coton, en revanche, il s'agit d'une réflexion un peu plus globale à avoir parce que, vous savez, c'est un produit qui était d'exportation, mais désormais un produit que nous souhaitons transformer ici. Alors, les résultats que nous avions eus depuis quelques années sont des résultats en baisse, eu égard aux changements qui ont été apportés. La qualité de la semence est en jeu. Les surfaces cultivées ont baissé, cela est vrai. Donc, il nous faut répondre à ces défis-là, augmenter la qualité de la semence pour que les productions soient plus intéressantes, soient plus qualitatives et augmenter les surfaces. Mais il y a une structure qui a entre les mains la gestion de ce secteur-là, en lien avec le gouvernement, bien entendu, et les discussions se poursuivent pour que nous puissions retrouver les lettres de noblesse de notre pays en termes de production de coton.
Alors, parlant de la croissance économique en général, ayant à cœur le souci de la cohésion nationale, le chef de l'État a rappelé les mesures qui ont été prises par votre gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat et permettre que les plus vulnérables ne soient pas laissés sur le carreau. Il a annoncé d'importantes ressources financières qui ont été mobilisées pour subventionner les prix de certains produits. Et il a également envisagé un ciblage beaucoup plus précis des populations éligibles aux programmes sociaux spécifiques. Monsieur le ministre?
Pour les couches vulnérables, c'est un travail de fond qui est en train d'être fait. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que depuis 2020, avec en ligne de mire 2025, le gouvernement fonctionne sur une feuille de route gouvernementale. Et sur la feuille de route gouvernementale, l'un des piliers, c'est quand même l'inclusion sociale. Comment faire pour que nos compatriotes les plus vulnérables puissent progressivement sortir de cette situation de vulnérabilité. Et cela se manifeste justement par un ciblage plus précis pour pouvoir apporter de l'aide. Il y a déjà des aides qui sont apportées à ces compatriotes, mais il nous faut améliorer l'identification de ces compatriotes afin que l'aide atteigne la personne véritablement nécessiteuse. On l'a expérimenté avec Novici. Sur cette base-là, désormais, l'affinage se poursuit. Nous avons désormais des leviers qui nous permettent justement de finir cet affinage. Le recensement général de la population de l'habitat est une base de travail très importante. Le recensement biométrique qui va se faire bientôt et le recensement des personnes et des ménages qui va l'accompagner. Cela va nous permettre là aussi d'avoir une réponse ciblée. Mais au-delà de cela, dès maintenant, on a des réponses. En septembre dernier, il y a une batterie de mesures qui a été prise. C'est près de 90 milliards qui ont été injectés. Mais pour l'année à venir, dans le budget national, on a des éléments de réponse pour ces personnes vulnérables.
Alors justement, le ciblage est beaucoup plus précis des populations éligibles s'impose parce que des critiques ici au plan national et à l'heure laissent entendre que bon nombre de subventions vont plutôt dans les poches des plus nantis et pas nécessairement de ceux qui sont beaucoup plus à la durée de la vie au quotidien.
Alors, quand vous parlez de subventions, subventions nationales ou aide internationale, moi, je parle ici de ce que l'État met à la disposition des populations vulnérables. Et là-dessus, il me semble que le travail est fait de façon qualitative pour que les transferts sociaux qui sont réalisés, les filets sociaux de base qui sont mis à disposition puissent être utiles pour les populations vulnérables. Alors, je ne nie pas qu'il peut y avoir des déperditions ici et là, mais cela reste parfaitement marginal.
Toujours pour renforcer le pouvoir d'achat de la population et surtout dans le sens de plus de cohésion, vous avez rappelé tantôt les 10 mesures que le chef de l'État a prises il y a quelques mois, mais ces mesures qui sont allées beaucoup plus à l'avantage des fonctionnaires d'État. Le débat continue là-dessus. Et puis, dans son discours, le chef de l'État est revenu sur la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, également dans le secteur agricole, et qui passe de 35 000 à 52 500 francs CFA, parti d'avant-hier 1er janvier 2022. C'est une 2023, pardon. C'est une nouvelle qui doit réjouir. Les ouvriers, les employés des secteurs parapublics et privés. Maintenant, là où tout le monde regarde, c'est la mise en œuvre effective de ce SMIC revalorisé, monsieur le ministre.
La revalorisation du SMIC est un acquis. Il faut lire cette revalorisation comme un véritable acquis. On le sait, ou on ne le sait pas assez plutôt, la question du SMIC relève d'abord des syndicats et du patronat. C'est très important de le rappeler. Beaucoup ont le sentiment que c'est à l'État d'augmenter le SMIC. Non. Sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, ce sont les acteurs, c'est pour cela qu'on parle de dialogue social, ce sont les acteurs sociaux qui discutent et qui, à un moment donné, arrêtent le montant. L'État ne fait qu'entériner, l'État accompagne cela. Et le chef de l'État, dès le début, a véritablement œuvré pour que cette revalorisation se fasse. Maintenant, les syndicats se sont retrouvés autour de la GET, de la CCIT, notamment du CNP, pour pouvoir acter cela. Je pense qu'il faut saluer d'abord cette avancée. C'est une avancée non négligeable. À l'échelle de notre pays, il me semble que c'est un effort important. Et cet effort-là, il se réalise systématiquement sur la base des richesses produites. Si nous produisons beaucoup de richesses, il est normal que le salaire augmente. Mais si nous ne produisons pas assez de richesses, il est difficile de pouvoir augmenter. Donc, aujourd'hui, nous devons avoir en ligne de mire une augmentation de notre productivité. Je ne voudrais pas comparer avec d'autres pays, mais je pense que nous nous situons dans la fourchette très haute aujourd'hui en termes de SMIC. Et pour que le SMIC continue à augmenter, je pense qu'il y a un travail que nous devons tous faire. Vous savez, notre économie est structurée de telle sorte que la partie informelle est proéminente. Mmh. Et si nous continuons à avoir une partie informelle aussi proéminente, nous ne pouvons pas dégager de la ressource pour augmenter le SMIC, le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et même pour développer notre pays. Parce que nous avons ici certains de nos compatriotes qui profitent des infrastructures qui sont réalisées grâce à ceux qui sont dans le formel et qui participent et qui, eux, de leur côté, créent de la richesse exclusivement pour eux-mêmes sans contribuer au développement national. Donc, là-dessus, il me semble qu'il nous faut faire un effort parce que le gouvernement met en place les canaux et les messages pour que les acteurs du secteur informel puissent se formaliser, parce qu'en se formalisant, ils gagnent beaucoup plus qu'en restant dans le secteur informel. Au plan de la sécurité sociale, ils ont des avantages. Au plan financier, ils sont connus, peuvent avancer et leur structure peut grandir, peut progresser plus facilement qu'en restant dans l'informel. Donc, l'augmentation du SMIC doit jeter la lumière sur cet aspect-là, mmh, afin que nous continuions à avoir en ligne de mire l'augmentation de notre productivité qui mécaniquement va entraîner l'augmentation du pouvoir d'achat.
Il me semble que c'est important de rappeler que avant même le chef de l'État, c'est un communiqué conjoint des organisations syndicales et patronales qui ont annoncé que le salaire venait de passer de 35 000 à 52 500. Alors on peut présager que le gouvernement n'a pas mis le couteau sur la gorge aussi bien des employeurs que des syndicats pour le signer. Maintenant, ce qu'on entend du gouvernement, quels sont les appuis que le gouvernement est en passe d'apporter aux entreprises pour qu'elles puissent réellement soutenir le SMIC revalorisé?
Le gouvernement ne met pas le couteau sous la gorge, vous le dites si bien, mais le gouvernement accompagne. Le gouvernement accompagne les entreprises. Regardez, le président de la République a annoncé l'exonération de la part patronale des primes d'assurance. Ce qui veut dire que l'on augmente, c'est vrai, le pouvoir d'achat de chaque salarié, mais le gouvernement fait en sorte que les entreprises puissent avoir moins de charges pour assurer de l'autre côté le paiement de ces salaires. Mais il faut savoir aussi que, en marge des différentes exonérations d'impôts et de taxes que le gouvernement fait, c'est un effort collectif. Pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure, la première des choses, c'est d'en appeler tout simplement au bon sens et au sens civique des uns et des autres. C'est la première des choses. Mais la seconde des choses aussi, c'est que le gouvernement ne passera pas dans toutes les entreprises une à une pour vérifier si le SMIC est accordé. Aujourd'hui, il s'agit d'un droit. Il s'agit d'un droit du salarié. Et un droit se revendique. Le gouvernement continuera à accompagner les entreprises pour que l'annonce soit effective, pour que l'augmentation du SMIC ne tire pas les entreprises vers le bas, mais le gouvernement restera vigilant, évidemment, pour l'application de cette nouvelle mesure.
Et je rappelle que le communiqué conjointement signé par les centrales syndicales et les organisations patronales laisse également la porte ouverte à ces négociations, à ces discussions, parce que si le SMIC passe de 35 000 à 52 500, ça veut dire que ceux qui avaient les salaires de 40 et autres devront également voir leur salaire réajusté. Et à ce niveau, le gouvernement devrait être sollicité, ne serait-ce que pour arbitrage, monsieur le ministre.
Sur tout le processus, le gouvernement accompagne. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont les partenaires sociaux qui discutent. Le gouvernement accompagne en donnant des coups de main à gauche et à droite, c'est-à-dire en donnant des coups de main aux entreprises, en donnant des coups de main aux salariés. Mais c'est le rôle du gouvernement parce que, dans cette mesure-là, le gouvernement prend soin de chacun de ses citoyens. Et, mis à part cela, il faut que les acteurs continuent de travailler comme ils le font déjà, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de hauteur, pour faire en sorte que cette mesure nous permette tous d'avancer. Vous savez, augmenter le SMIC aujourd'hui à 52 500, ce n'est pas une fin en soi. L'ambition, c'est de continuer à augmenter. Mais pour pouvoir augmenter, c'est continuer à produire, mobiliser toutes les ressources disponibles pour créer de la richesse. Une fois que la richesse est créée, la question, c'est comment on répartit la richesse. Donc, moi, il me semble qu'il nous faut nous tourner vers là, être plus productif au quotidien. Imaginer les moyens pour nous de créer encore plus de richesse dans la discipline et l'ordre. Et vous verrez que on n'attendra pas 11 ans pour pouvoir augmenter à nouveau.
Merci, le SMIC. La cohésion nationale tient à cœur à nos auditeurs. La preuve des auditeurs qui nous suivent attire mon attention sur le fait que les 10 mesures annoncées par le chef de l'État il y a quelques mois n'ont pas été aussi inclusives que ça. Certaines sociétés, certaines entreprises parapubliques, comme l'Université de Lomé, par exemple, n'a pas pu étendre ces mesures à leurs employés. Alors, ils se demandent où est-ce qu'ils vont se retrouver aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont dans le public ou bien est-ce qu'ils vont s'aligner avec les nouvelles mesures notamment du SMIC dans le privé.
Alors, on voit tout de suite toute la difficulté qu'il peut y avoir à mettre en œuvre ce type de mesures et les défis que nous avons en face. Pour les salariés de ce secteur, on parle notamment de l'université, évidemment qu'ils sont en discussion avec leur hiérarchie pour voir dans quelle mesure les 10 mesures pourront être étendues à leur quotidien. Donc, je crois que le levier le plus important reste le dialogue, la discussion, parce que nul n'a la science infuse et les solutions, même lorsqu'elles sont inventées, elles doivent être adaptées au quotidien pour pouvoir répondre précisément aux difficultés.
Et l'une des conséquences du SMIC revalorisé, c'est la convention collective dans le monde des médias qui a été signée il y a quelques semaines. Les uns et les autres ont sollicité un moratoire d'un an. Et avant même l'entrée en vigueur de la convention, certaines dispositions, notamment le SMIC et les autres mesures corollaires, se retrouvent inadaptées. Ça veut dire que là également, il faudra repartir en discussion.
Oui, et les patrons de presse et les différents syndicats de journalistes en ont pleinement conscience. Tout le monde savait qu'il y avait des discussions pour l'augmentation du SMIC. Je pense que ni l'un ni l'autre ne serait mécontent de cette augmentation. Maintenant, la discussion va s'ouvrir à nouveau pour que les uns et les autres voient comment s'aligner sur cette augmentation que nous venons de constater. Cette augmentation ne doit pas être vécue comme une mauvaise nouvelle. Elle doit être vécue comme une très bonne nouvelle. Mm-hmm. Maintenant, comment on fait pour qu'elle devienne réalité pour tout le monde doit être notre leitmotiv.
Merci. Le chef de l'État n'a pas oublié que nous sommes en année 2023, année électorale, avec deux échéances, notamment l'élection des conseillers régionaux d'une part et des députés de l'autre. Sauf que il ne s'est pas aventuré sur les dates précises. Il a laissé le soin à la CENAP, la coordination nationale entre acteurs politiques, dont est issu le cadre permanent de concertation, sûrement en liaison avec la CENI, pour l'effectivité de ces élections, monsieur le ministre.
Alors, vous avez cité les grands acteurs et il faut rajouter le ministère de l'administration territoriale, mm-hmm, qui va piloter ces échéances-là. Vous savez, les élections constituent des étapes normales de la vie d'une société. À un moment donné de la vie de la société, les citoyens en âge de voter se retrouvent pour se choisir des élus qui vont conduire aux destinées de la société. Donc, il s'agit d'un événement normal qui va avoir lieu, parce que la programmation veut cela, qui va avoir lieu cette année, en 2023. Le plus important maintenant, c'est d'organiser cet événement-là dans les meilleures conditions pour que ces élections se déroulent dans un bon climat.
Et le chef de l'État forme le vœu chacun puisse jouer son rôle dans le respect du calendrier républicain fixé pour la réussite de ces deux scrutins. Depuis quelque temps, le Togo s'honore de financer ses propres élections. Or, deux élections en une année pour les régionales et les législatives, alors qu'en 2024, les communales nous attendent et que la grande présidentielle de 2025 également est déjà devant nous. Est-ce que tout cela ne risque pas de peser un peu trop financièrement sur notre budget?
C'est un poids financier qu'il faudra assumer. C'est un poids financier qu'il faudra assumer parce qu'on ne peut pas refuser de faire les élections. Les élections doivent avoir lieu. Je sais qu'il y a eu des discussions entre les uns et les autres tenant à dire qu'il fallait coupler les élections pour faire des économies. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Mais la difficulté qu'il y a sur une telle idée, c'est, entre guillemets, le défaut de maturité que nous avons pour le moment qui puisse nous permettre de gérer ce couplage-là. Nous n'avons pas les éléments disponibles pour pouvoir le faire, on l'assume parfaitement. Et le poids financier est assumé et il sera évidemment financé parce que les élections font partie de la vie républicaine et qu'on ne peut pas décider pour des raisons financières de ne pas en organiser.
Eh bien, quand le chef de l'État a dit souhaiter que ces élections se déroulent de façon apaisée, On peut également lui rappeler que l'élection non seulement est, mais également transparente et que ce soit la vérité des unes qui s'expriment.
Là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude. Lorsque le chef de l'État parle d'élections apaisées, effectivement, il convoque ici la volonté de nos compatriotes, des uns des autres, d'œuvrer à ce que ces élections soient apaisées et mécaniquement qu'elles soient transparentes, parce que si elles sont transparentes, elles sont fiables et elles reflètent finalement les choix de nos concitoyens. Donc là-dessus, je pense que tout est fait. Les acteurs sont mobilisés pour arriver à ce résultat-là. Nous ne devrions pas nous en inquiéter.
Et Fall Nyasingbe qui parle de l'édification de la société juste et équitable, qui doit se fonder sur un État fort, FORT, doté d'institutions solides. C'est à ce niveau que, monsieur le ministre, au club de la presse, il nous arrive d'attirer l'attention de l'État sur un certain nombre de situations au sein des institutions républicaines, institutionnelles, et constitutionnelles, pardon. Par exemple, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, non seulement la perte de son ancienne présidente, mais les membres de la CNDH se retrouvent avec leur mandat forclos depuis des mois. Du côté de la HAC, la Haute Autorité de la Communication également, le mandat a expiré depuis, mais les membres sont encore en poste. Situation similaire à la Cour des comptes et même à la APLUSIA. Alors, monsieur le ministre, est-ce que ce sont là des institutions vraiment solides pour porter l'État de droit?
Nos institutions sont solides. On vit une situation particulière. Il ne faut pas l'occulter. On vit une situation particulière et il y a des raisons objectives qui peuvent expliquer cette situation particulière. Vous parliez là de la CNDH, par exemple, et vous savez que pour la CNDH, autant la HAC notamment, il y a une partie élective et il y a une partie désignation des membres. Donc, on a une composition qui est duale. La partie élective suppose que les membres de la CNDH soient élus au sein de l'Assemblée nationale. Mais jetez un coup d'œil un peu sur le calendrier de notre Assemblée nationale cette année et regardez l'activité intense de cette Assemblée, notamment sur la partie crise sanitaire, les difficultés économiques que l'on a pu voir et la volonté d'apporter des réponses, en tout cas, ne serait-ce que du cadre réglementaire à ces difficultés. Donc, cela a retardé le processus. Et un autre élément qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si on prend par exemple la CNDH, c'est près de 70 candidatures. Cela témoigne de l'intérêt croissant de nos compatriotes vis-à-vis des institutions, qui est une très bonne chose parce que cela permet d'avoir une base de choix plus élargie et où l'on peut désigner des compétences encore plus pointues. Mais de façon conséquente, cela entraîne beaucoup plus de travail à l'Assemblée nationale parce que il faut identifier les candidatures une à une, il faut faire les enquêtes de moralité. Tout cela prend un peu plus de temps avant d'aller vers les élections. Donc, le gouvernement, de son côté, est prêt. Une fois que la partie élective est réalisée, le gouvernement, le chef de l'État, dans son choix, va apporter sa liste de contributions pour que les groupes soient constitués. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à une situation conjoncturelle qui a retardé la recomposition de ces différentes institutions. Ce n'est pas voulu et le discours est très, très, très clair là-dessus, des institutions fortes. Et pour cela, il faut travailler de façon minutieuse pour sortir véritablement des personnes à même d'incarner ces institutions.
Monsieur le ministre, on pourrait vous rappeler à vous-même et respectueusement au chef de l'État que les crises dont nous parlons ne vont pas empêcher l'organisation des élections régionales et surtout législatives. Et également rappeler que c'est courant 2021 que l'Assemblée nationale avait lancé les processus de renouvellement des institutions comme la CNDH et comme la HAC et d'autres. Et puis, sans aucune explication, les processus ont été arrêtés suspendu et même remis en cause. Et puis encore, sans rien dire, l'Assemblée est allée jusqu'à la fin de l'année sans aucun droit d'explication.
Le processus a été suspendu pour les raisons que vous connaissez. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le processus a repris. À la rentrée parlementaire, ce sont les priorités qui sont inscrites à l'agenda de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous rassurer là-dessus. Les recompositions vont s'effectuer.
Sûrement, mais on peut se demander comment un état de droit solide et fort peut s'appuyer ou bien fonctionner avec des institutions dont le mandat est fort clos et qui serait quelque part bancal, monsieur le ministre.
Alors, si le mandat est fort clos et qu'il n'y a pas de renouvellement, le mandat continue de façon tacite, vous le savez. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, est-ce que vous avez introduit une demande à la Hague et qu'on ne vous a pas répondu? On répond. Et c'est une situation conjoncturelle, je le rappelle encore, due à un certain nombre de facteurs dont je vous ai énuméré quelques-uns. Et cette situation est en train de rentrer en correction.
Merci, c'est le ministre Akoda Ayoadan, ministre de la Communication des Médias, porte-parole du gouvernement, qui nous fait revisiter le discours du chef de l'État. Nous avons parlé des crises sécuritaires, sanitaires, économiques, avec la croissance économique qui revient, notamment la revalorisation du SMIC. On a parlé du calendrier électoral et on a terminé par l'état de droit avec les institutions solides qui portent l'état de droit. Venons-en maintenant à notre ami Ayao Justin Gbemina. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes de
l'association Jésus Miséricordieux.
L'association Jésus Miséricordieux. Vous organisez donc, vous avez un projet.
Exact.
Il s'agit de
Soirée de la Miséricorde.
Soirée de la Miséricorde qui va se tenir le
7.
C'est-à-dire le samedi prochain.
Ce samedi, oui.
Ce sera à 15h.
Oui.
Au foyer, au CDI à Granaoui. Eh bien, en quoi consiste ce projet?
C'est un projet qui a pour objectif d'offrir une table de réanimation avec un but au nouveau-né.
Mm-hmm.
Bon, il faut dire qu'au-delà de ce premier objectif que nous avons, nous voulons rendre l'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits durant l'année 2022 qui vient de finir, et confier en même temps cette année nouvelle au Seigneur.
Toujours rendre grâce et avec l'espoir que vous allez trouver les ressources nécessaires pour acheter cette table de réanimation du nouveau-né avec un but. Ce sera au profit du centre hospitalier préfectoral de Dagny. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que va coûter la table et avec son embut?
Oui, concernant le coût avec nos recherches, on nous a dit que ça coûte 2 500 000.
Francs CFA.
Francs CFA.
Seulement, dirions-nous.
Oui.
Mm-hmm.
Donc, pour accéder à la salle le samedi, nous
7
avons.
Janvier.
7 janvier. Nous avons mis à la disposition de tout le monde des tickets de 2 000 francs, de 5 000 francs et de 10 000 francs.
Et quelle est la capacité de la salle?
La salle prend 400 personnes.
Alors, si on divise 2,5 millions par 400, avec les pieds que vous distribuez, est-ce que vous pouvez rassembler ce montant?
Non, au-delà de ceux qui vont venir le samedi, nous avons mis également à la disposition de tout le monde les 4 VIP. Il y a des gens qui seront vraiment intéressés par ce que nous faisons, mais qui ne pourront pas venir. Donc, s'il veut vraiment nous aider...
Comme nos deux techniciens derrière la vitre,
et bien
d'autres personnes qui sont déjà disposées à recevoir la carte VIP.
Les VIP.
Mm-hmm.
Ou carrément, vous voulez nous envoyer des timonies ou des flouzes, nous sommes disposés à les recevoir pour pouvoir payer la table.
Eh bien, la soirée, la rencontre, ce sera le samedi 7 janvier 2023 à 15h au foyer OCDI. Oui. Les entrées, ce n'est pas payant, mais chacun apporte une contribution d'au moins 2000 francs CFA.
Oui, comme je le disais tantôt, c'est des tickets que nous avons fait.
À 2 000 francs CFA.
À 2 000 francs, à 5 000 francs et à 10 000 francs.
Mm-hmm. 2 000, 5 000, 10 000. 10 000.
Pour les tickets de 2 000, c'est déjà fini.
Mm-hmm.
Le stock est fini. Il reste maintenant les tickets de 5 000 et de 10 000 francs.
Et à côté, il y a également les cartes VIP.
Mm.
Et il y a également de bonnes volontés qui peuvent faire des transferts,
voilà.
Soit par flouze ou bien par Timoni. Quel est le numéro
concernant par Timoni? Les numéros... Pour le Timoni, 90, 84, 67, 50.
Encore une fois?
90, 84, 67, 50.
Mm-hmm.
Et pour le Flouze, nous avons 96, 31, 78, 18.
Encore une fois?
96, 31, 78, 18.
Alors, est-ce que vous êtes assuré de ces deux numéros parce que les arnaqueurs ne sont pas loin? Monsieur Gbemima.
Oui, vous l'avez si bien dit. Ils sont là, mais bon, avec la grâce de Dieu, nous, on essaie de gérer tous ces problèmes-là.
Mm-hmm.
Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent vraiment nous appuyer, ils peuvent toutefois contacter le numéro 90 64 64 23.
Encore une fois.
90 64 64 23.
Voilà, soirée de la miséricorde divine, le samedi 7 janvier 2023 à 15h au foyer OCDI. Hein, l'objectif, c'est rassembler les ressources pour pouvoir acheter une table de réanimation du nouveau-né avec un but à offrir au centre hospitalier préfectoral de Dagny. Oui. D'un coût de
2 500 000.
Et les tickets sont en vente 2 000, 5 000, 10 000. Les tickets VIP. Et puis les numéros par lesquels on peut envoyer son transfert. Oui. Timoni, vous nous rappelez le numéro, s'il vous plaît.
90 84 67 50. C'est pour les Timoni. Mm-hmm. Et pour les Flouzes, 96 31 78 18.
Et ceux qui nous écoutent de par le monde entier, qui sont touchés par ce message et qui voudraient apporter leur contribution, le numéro contact
90 64 64 23.
J'espère bien, monsieur Gbemina, que vous allez pouvoir rassembler les moyens pour offrir cette étape de réanimation du nouveau-né avec un but au centre hospitalier préfectoral de Dagny. N'est-ce pas?
Oui.
Vous avez la foi?
On a la foi.
N'est-ce pas? Eh bien,
le Christ est dans la barque.
Canal FM, le club, la presse, nous partageons cette foi avec vous et nous en appelons à la solidarité du Togolais. Pour pouvoir pour permettre de réaliser ce projet, parce que Jésus, au nom de qui vous faites ce projet, dit ce que vous faites à ces petits enfants, c'est
Matthieu 25 verset 35.
Mm-hmm.
J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi.
Et ainsi nous pourrons offrir cette étape de réanimation du nouveau-né à Dagny. Peut-être que dans ce centre hospitalier naîtra un petit garçon ou une petite fille qui pourra, d'ici quelques années, devenir ministre, un grand journaliste, un grand officier, merci grand beaucoup. Homme d'affaires. Pourquoi pas Pelé à la Togolaise, ou même carrément cet enfant qui pourrait naître là-bas et s'il était catholique, il pourrait devenir, par la miséricorde de Dieu, un pape, n'est-ce pas?
Oui.
Merci beaucoup, Justin Ayao. Gbemina, vous avez le soutien du Club de la Presse de Canal FM.
Merci
pour que ce projet puisse se tenir. Et nous comptons sur vous. Revenez d'ici quelques temps pour annoncer la date du don de la table à Dagny, n'est-ce pas?
Oui. Puisque nous avons déjà introduit une lettre au niveau du ministère de la Santé concernant notre idée et on attend le retour. Et dès que nous aurons la machine, parce que nous, notre souhait, c'est que le samedi, le 7, que tous ceux qui viendront pour la soirée puissent voir de visu la table de réanimation. Parce que c'est l'objectif premier de notre projet.
Merci d'être passé au club La Presse. Je rappelle que ce matin, déjà à 10h, vous étiez avec la consoeur d'ADD. Mais il n'y a pas que Canal FM. Hein. Les Togolais écoutent divers médias, Radio Victoire, Radio Nana FM, Radio Lomé, la TVT, tous les médias et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à envahir tous ces médias, tous ces réseaux, pour que ce message atteigne tous les Togolais, depuis la présidence jusqu'au marché, en passant par les ministères. Les députés sont en congé, mais vous avez les contacts, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En tout cas, nous pouvons vous aider à avoir quelques contacts, les hommes d'affaires, pour que ce projet devienne réalité. Il est 12h. Nous allons marquer un temps d'arrêt, adresser un clin d'œil à nos partenaires, et puis la technique qui va se préparer à vous accueillir. Vous appelez sur le 22, le 21, 33, 74, ou bien le 91, 36, 63, 75. Le ministre est à nos côtés. Vous pourrez lui adresser vos commentaires, vos questions, sur tous les aspects du message du chef de l'État qu'il a commenté avec nous, ou notre ami de la soirée de la miséricorde, qui est également à nos côtés.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous avons parlé essentiellement de deux sujets aujourd'hui, à savoir les vœux du chef de l'État, Faure Gnassingbé, que le ministre Ayoadan nous a aidé à décliner dans tous ces différents aspects. Et puis, notre invité Ayao Justin Gbemina qui a parlé avec nous de la soirée de la miséricorde avec ce souhait de rassembler au moins 2 500 000 francs CFA pour offrir cette table de réanimation du nouveau-né avec un but au CHP de Dagny. La parole est à vous sur les deux numéros que vous connaissez déjà. Et la technique maintenant, c'est le président Dieter. Bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour, l'ami, c'est monsieur.
Bonheureux, Nazin.
Bonheureux, Ali, à vous aussi, monsieur.
Bozambo. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur.
Il me semble que vous nommez monsieur Ayoadan, parce que Ayoadan, le nom d'évêque figure. Après l'émission, il faut venir pour nous expliquer à nos mamans, en éveil, ce que le chef de l'État a dit. Merci.
Je vous en prie, l'ami Bozambo, oui.
Oui. Ma première question. L'année passée, le chef de l'État a annoncé Ouezou. Oui. Est-ce que, jusqu'à présent, le chef de l'État a fait l'enquête que Ouezou, qu'il a annoncé, nos mamans, va directement à dispenser, à dépenser un point, un franc ou bien deux francs. Mm-hmm. Ouezou ne fonctionne pas, monsieur le ministre. C'est le chef de l'État m'a dit. L'année passée, il dit qu'ils vont construire 5 stades. Jusqu'à présent, on n'a pas vu aucun stade. Ça fait 8 ans. Lui-même, il est venu à Badia pour développer l'agriculture, pour déposer une pierre, pour construire un grand élevage à l'élevage. Et après, il est quitté pour Agou. Et jusqu'à présent, rien n'est fait à Badia, à Agou. Comme un chef de l'État, qui va le poursuivre pour dire que ce que vous avez dit, dans votre parole, respectez vos paroles. Mm-hmm. Nous sommes là pour voter, c'est les droits des Togolais. Non, pensez à nous aussi et développez ce que vous avez en train de faire. Si vous avez fait des conseils ministres, venez nous expliquer en notre langue vernaculaire, il y avait des Kabyes, des Kodogolis, des Tokosi, toutes les langues là, il y avait toutes les langues dans notre ministère. Il faut déployer sur les médias pour nous expliquer, pour nous éclaircir. Merci et bonne émission à tous les deux. Et bonne heureuse année.
Oui, cher ami Bozambo, bonne heureuse année. Monsieur le ministre, oui. Vous avez écouté notre compatriote.
Oui, je voudrais le remercier pour ses bons
mais
voeux.
Souffrez, nous recevons d'abord l'auditeur qui est en attente. Bonjour, l'ami.
Oui, bonjour, monsieur Sofigao. Bonjour, le ministre. Bonjour, le plateau. Bonne heureuse année 2023.
Merci. C'est merci. Monsieur
Benoît Dagouet.
Bon, avant
dire. Je n'ai pas encore écouté le message du président de la République.
Mm-hmm. Depuis samedi.
Hier, j'ai écouté le message du président ivoirien et sénégalais.
Ah bon, vous êtes au Togo, mais vous avez écouté les discours des présidents du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas écouté les messages de votre chef d'État.
Et je ne savais pas qui m'a mis là pour le discours. Et je m'excuse pour cela. Mais okay. En évoquant le nom de Jésus, dans vos propos, je sais que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je vais faire allusion aux élections régionales. Sur quel chemin allons-nous organiser, allons-nous mettre à cette élection? Et, parce que, il faut la vérité des unes. Est-ce que toutes choses sont réunies? Vous parlez de, comment je vais dire ça? Des élections.
Monsieur Benoît, l'ami Benoît Dagouet, nous avons compris l'essentiel. Mais je me permets de vous rappeler que si vous êtes fier d'être Togolais, vous devrez commencer par vous intéresser d'abord à votre pays avant d'aller à l'extérieur. C'est un acte de patriotisme, de fierté nationale. Mais le ministre va vous reprendre bientôt. Un auditeur en ligne. Ok, monsieur le ministre, vous avez écouté l'ami Benoît Dagouet et puis avant lui, l'ami Bozambo.
Oui, pour le premier auditeur, Monsieur Bozambo, oui. Je voudrais le remercier pour ces questions. Mais pour ce qui est de la déclinaison des messages en langue nationale, il y a un effort qui est fait. Le discours du chef de l'État a été traduit hein, dans nos a été repris, pas traduit, repris dans les langues nationales et est en train d'être diffusé un peu partout. Peut-être que le message n'est pas encore arrivé chez lui, c'est pour cela. Pour le, justement, le travail que nous faisons d'explication, de pédagogie autour de ce discours-là, le ministre Adédié, par exemple, sera sur Nana FM demain en langue Mina. D'autres collègues qui parlent d'autres langues de notre pays seront disponibles également sur les autres médias. En ce qui me concerne, je ferai le nécessaire. D'ADD vient de malpaguer là-dessus, donc n'ayez aucune crainte, vous m'écouterez dans les langues nationales aussi. Il a parlé de Ouézou,
oui.
en parlant de dysfonctionnement, mais il me semble qu'il ne faut pas généraliser. Le programme Ouézou fonctionne. Il y a eu des dysfonctionnements, ce n'est pas faux. Il y a eu des dysfonctionnements par endroit. Et ces dysfonctionnements-là ont fait l'objet de signalements et on est en train d'apporter des correctifs sur ces dysfonctionnements-là. Donc là aussi, je voudrais le rassurer sur le fait que sur des programmes comme ceux-là, l'implémentation peut rencontrer des difficultés par endroit. Mais il n'y a pas lieu de généraliser. Par endroit, il y a eu des difficultés, mais de façon générale, c'est un programme qui fonctionne. Mmh. Lorsqu'on parle de Ouézou, il faut le mettre ensemble avec d'autres programme, School Assure, l'INAM, cela rentre dans un projet global pour faire en sorte que d'ici à 2025, nous ayons un système d'assurance maladie qui puisse fonctionner de façon globale, efficace et concerner au moins 60% de nos compatriotes. C'est l'ambition du gouvernement. Donc là-dessus, là aussi le rassurer pour dire que c'est un travail qui est en cours et les résultats vont être perceptibles petit à petit.
L'ami Bozambo a également rappelé des promesses du chef de l'État dont on entend toujours la réalisation, notamment les stades, un projet agro-pastoral dans la Vée.
Ce sont de gros projets. Ce sont des gros projets. Il y a eu des promesses. Ces promesses-là ont fait évidemment l'objet d'études, mais sur des projets aussi importants, il est difficile d'avoir des réalisations du jour au lendemain. Peut-être qu'il n'en voit pas encore les manifestations immédiates, c'est pour cela qu'il s'inquiète, mais je crois que il n'y a pas lieu de céder à la panique ou en tout cas au désespoir. Il y a un travail qui se fait en amont pour pouvoir implémenter ces différents projets.
Merci. Alors, pour la lutte contre le terrorisme, un auditeur se dit surpris que le chef de l'État ne soit pas allé réveillonner avec nos soldats au front. Ça aurait été une façon très, très parlante de leur rappeler qu'il est effectivement non seulement leur commandant en chef, mais il est à leur côté.
J'ai envie de demander à notre compatriote qu'est-ce qu'il en sait. C'est pas tout.
Il ne sait pas parce que
c'est
ce qu'il dit.
Oui, c'est pas tout qui doit faire l'objet de publicité. Vous connaissez notre pays et vous le savez. Tout est question de mesure. Tout est question de je ne dirais pas de pudeur, mais on fait en sorte que les choses se fassent dans l'ordre. Le chef de l'État est aux côtés des troupes. Je ne veux pas dire quasiment au quotidien, mais de façon très régulière. Là-dessus, je peux rassurer les compatriotes. Ceux qui sont au front le savent et ce n'est pas sur tout que l'on peut communiquer.
Alors, dans ce sens, même si on n'en parle pas, est-ce que le chef de l'État met tous les moyens pour soutenir le moral de ses compatriotes qui sont exposés aux dangers quotidiens?
Tout est mis en œuvre, disons-le très simplement comme cela. Nous connaissons nos moyens et nous faisons la politique de nos moyens. Nos compatriotes qui sont au front savent que au quotidien, le chef de l'État, ils sont la préoccupation du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées. Ils sont la préoccupation parce que ce qu'ils font au front est un travail tellement valeureux qu'il n'est pas possible de minimiser les efforts qui sont fournis. C'est pour cela que, je le rappelle dans le discours de son Excellence le Président de la République, il l'a réitéré encore, que les capacités stratégiques opérationnelles des militaires seront renforcées. Tout ce qui doit être mis en œuvre pour que ceux-ci aient les moyens d'empêcher ces agresseurs de s'installer de façon durable sur notre territoire sera fait.
Merci. D'autres auditeurs reviennent sur la revalorisation du SMIG et se montrent très, très inquiets, notamment dans le monde de la presse. On se plaint de l'absence de publicité. Avec quelles ressources les sociétés de presse vont pouvoir faire face au SMIG revalorisé? La même inquiétude est partagée également par les petits entrepreneurs qui se demandent comment ils vont pouvoir faire pour payer le SMIC revalorisé et ajuster les autres salaires en conséquence, monsieur le ministre?
Le SMIC, c'est le dialogue. On l'a dit tout à l'heure. Le SMIC, c'est le dialogue en permanence. Donc, les voies et moyens qui doivent être explorés ou qui doivent être identifiés pour pouvoir régler ces difficultés-là, ces voies de moyens seront identifiées de façon collective. Dans le secteur de la presse, je pense que les patrons de presse et les syndicats peuvent en porter témoignage. Nous nous réunissons très régulièrement avec les patrons de presse et nous discutons. Les syndicats de journalistes, je crois que le plus important aussi, c'est qu'ils relaient auprès de leurs salariés l'économie de nos discussions. Pour les petites et moyennes entreprises, on a des ministères dédiés qui, au quotidien, travaillent avec eux pour voir comment on fait pour avancer ensemble. La démarche, elle est là. Le travail doit rester collectif. La solidarité doit être de mise. Je le disais plus haut, la revalorisation du SMIC n'a pas pour objectif d'enterrer les petites et moyennes entreprises. Au contraire, c'est de faire en sorte que nous puissions avancer de façon collective. Donc, les solutions ne vont pas tomber du ciel. Les solutions doivent être imaginées autour du dialogue, de façon collective, pour avancer.
D'autres auditeurs reviennent sur la cohésion sociale dont ils se plaignent que c'est loin d'être une réalité. On a l'impression toujours qu'il y a une petite minorité qui s'accapare de la grande partie des richesses nationales et que ça ne descende pas assez dans ceux d'en bas. Monsieur le ministre.
Je pense que c'est une expression qui est rentrée dans le langage quotidien, mais est-ce que cette expression reflète la réalité aujourd'hui? Je n'ai pas les instruments de mesure, donc j'en doute. Le plus important, lorsqu'on parle de cohésion sociale, c'est ce que l'État fait pour ses concitoyens. Les vulnérables, comment est-ce qu'on les met au cœur ou au centre de la réflexion collective? Les salariés, les employés, comment est-ce qu'ils rentrent dans l'équation au quotidien? Et c'est ce que le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, fait. Lorsque je parlais tout à l'heure de l'assurance maladie, notamment. L'assurance maladie concernera tous les concitoyens togolais. Lorsque on met les moyens en œuvre pour que la défense de notre territoire soit assurée au nord du pays, c'est tous les citoyens qui sont concernés. Lorsqu'on se dit que on est face à une crise, on ne baisse pas les bras. À travers l'agence de transformation agricole, on apporte une réponse en nous appuyant sur les forces de notre pays. C'est une réponse collective là aussi pour les uns et les autres et assurer la cohésion sociale. Donc, c'est autant de mécanismes qui sont imaginés, qui sont mis en mouvement pour que les compatriotes soient concernés par la réussite collective. La mobilisation des uns et des autres, parce que il est très récurrent d'entendre dire oui, le gouvernement doit faire ceci, oui, le gouvernement doit faire cela. C'est parfaitement légitime. Maintenant, la réflexion doit aussi intégrer un élément, mais qu'est-ce que j'apporte? Parce que si on dit que le gouvernement doit le faire et que nous-mêmes, nous ne nous mobilisons pas dans la discipline, dans la rigueur pour accompagner ce travail-là, je suis convaincu que la perception de cette cohésion ne se fera pas voir.
Merci. Toujours pour la cohésion nationale, d'autres auditeurs. Je suis surpris qu'ils préfèrent m'envoyer les messages plutôt que d'appeler en direct. Mais ils voudraient savoir, pour les élections régionales et législatives, est-ce que le chef de l'État donne les garanties que ces élections seront ouvertes à tous les acteurs politiques, notamment ceux qui n'émergent pas, au CENAP?
Est-ce qu'il y a
à la CENAP, pardon.
Il n'y a pas de conditions exclusives pour participer aux élections. Les conditions pour participer aux élections sont inscrites dans la loi. Donc là-dessus, il n'y a même pas lieu de discuter. Il faut prendre tout simplement le code électoral et puis regarder. Si on remplit les conditions, on va aux élections. Si on ne remplit pas les conditions, on ne peut pas y aller. C'est là-dessus, il n'y a pas d'autre voie. La voie, elle est légale. Les conditions qui sont indiquées par le législateur pour pouvoir participer aux joutes électorales sont connues. Donc ceux qui sont éligibles à ces élections doivent tout simplement rassembler la documentation qui est nécessaire pour ce faire, remplir les conditions et s'adresser à qui de droit.
Un autre auditeur revient sur la diversification des partenariats dont le chef de l'État a parlé. Il voudrait savoir concrètement qu'est-ce que Fonds Yansigbé entend par là.
La conjoncture actuelle a montré que aujourd'hui le multilatéralisme doit être une façon de penser les relations avec les uns et les autres. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de partenaire privilégié, exclusif avec notre pays pour nous ménager des solutions alternatives. Nous devons être en capacité de discuter avec chaque État dont nous avons l'espoir que celui-ci peut nous apporter des réponses à certaines de nos questionnements. Donc, la diversification des partenariats, on doit l'imaginer. Vous l'avez vu aujourd'hui, nous parlons avec, nous sommes au Commonwealth, nous sommes à la francophonie, nous sommes dans la CEDEAO, nous avons des partenariats bilatéraux avec des États, Moyen-Orient. Donc, tout cela pour vous dire que ne nous fermons pas des portes. Disons-nous tout simplement que nous devons rechercher nos intérêts, les intérêts de notre pays, de nos concitoyens. Et si l'interlocuteur en face peut nous permettre, dans les règles de l'art, de pouvoir apporter des réponses à ces intérêts-là, nous discuterons.
Merci. Parlant des incertitudes et des crises sanitaires, un auditeur revient sur la crise sanitaire, notamment la COVID-19, qui connaît une résurgence en Chine. On annonce ici et là certains pays qui prennent des mesures. C'est pour savoir si le Togo également, si nous pourrions revenir au respect assez strict de certaines mesures, notamment privatives de liberté, quelque peu coercitives. Monsieur le ministre?
Non, objectivement, le souhait, c'est qu'on n'en arrive plus à ces extrêmes parce que cela nous empêche d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés du point de vue économique. Donc, il vaut mieux que nous ayons en prière que la situation en Chine puisse être rapidement circonscrite pour nous éviter à aller dépenser des ressources dans le sens de la circoncision d'une crise sanitaire importante à nouveau. Donc, prions de ne pas en arriver à cela. Et puis, mais si une situation comme telle se présente à nouveau, je pense que nous avons l'expérience désormais pour répondre rapidement à ce type de crise.
Merci, Monsieur le ministre, pour l'exercice de nous rendre beaucoup plus audible le message du chef de l'État. Mais nous allons terminer par votre secteur, la communication et les médias. Et je vous rappelle, vous savez très bien que dans quelques jours, le nouveau code de la presse de la communication va entrer en vigueur. Ce sera déjà, je crois, le 7 janvier prochain, avec la convention collective que votre secteur vient de signer, dont on attend la mise en œuvre après un moratoire d'un an avec la revalorisation du SMIC, tout ça là. Alors vous-même, si je vous demandais d'adresser ou bien de parler directement aux acteurs de votre domaine, les journalistes professionnels des médias aussi bien publics que privés. Monsieur le ministre.
Alors, moi, je voudrais d'abord les féliciter pour l'achèvement du processus de signature de la convention collective des hommes de presse, qui est une avancée...
Le sommet des femmes de presse.
Absolument, merci. qui est une avancée notable. Donc, il faut saluer cela. Mais ce n'est qu'un pas qui a été effectué. Il faut en faire d'autres pour avancer. Le code de la presse et de la communication arrive pleinement en vigueur à partir du 7 janvier, après... une situation transitoire, cela va imposer des changements. C'est-à-dire que nous avons un code de la presse qui est désormais moderne, qui est plus moderne, qui impose certaines conditionnalités pour pouvoir exercer le métier. Les conditionnalités qui sont posées visent à rendre le secteur beaucoup plus performant, beaucoup plus professionnel et beaucoup plus visible. Donc là-dessus, je voudrais rassurer les acteurs du secteur qu'il n'y a pas de volonté d'exclusion ou de volonté d'ostracisation. L'ambition, c'est de continuer à travailler pour améliorer la qualité de la presse. Et ce travail-là va continuer à se faire en toute synergie. Je le disais, nous avions des rencontres régulières avec les patrons et les syndicats pour trouver les voies et moyens pour améliorer la condition du journaliste. Là-dessus, nous allons continuer dans ce sens-là, continuer à discuter, pour voir les leviers à avancer. Mon leitmotiv là-dessus, c'était de dire aussi que lorsque le secteur est faible par endroit, il faut envisager des regroupements pour être fort. On ne peut pas avoir un groupe de presse constitué par une ou deux personnes. Ce n'est pas possible. Il faut envisager d'avoir de véritables sociétés de presse pour être efficaces. Donc, les réorganisations, les fusions sont nécessaires pour que les acteurs puissent vivre de leur métier. Merci. On y travaillera.
Merci, professeur Akoda Yoadan. En attendant de recueillir votre mot de conclusion, revenez à notre ami Ayao Justin Gbemima avec le projet de la soirée de la miséricorde. Vous nous rappelez ce projet encore une fois?
Non, c'est un projet que nous donnons la soirée de la miséricorde qui va se dérouler ce samedi, le 7 janvier 2023, à l'OCDI national à Hedjanaoué, à 15h.
Vous attendez le grand public avec les différentes palettes de tickets?
Exact, toute bonne volonté qui veut vraiment nous aider à pouvoir offrir cette table de réanimation aux enfants, d'acheter les tickets ou de nous aider par Timoni ou par Flouze.
Justement, un interview de savoir, qu'est-ce qui sera au menu de la soirée, à part le fait de collecter les tickets, les ressources?
Oui, pour la soirée, il faut dire qu'il y aura des prêtres qui vont venir nous aider à prier. Mm-hmm. Et après, c'est l'action de grâce, rendre grâce au Seigneur pour l'année qui vient de s'achever, mm-hmm, et lui confier en même temps cette nouvelle année. Il y a des artistes invités comme Eugène Ablodévi, comme Mao Totete, comme Emorège, comme la sœur Marietta. Mm-hmm. Eux tous seront là pour nous aider vraiment à louer Dieu.
Prier, chanter, louer Dieu, qui nous permet de rassembler les fonds nécessaires pour acheter cette étape de réanimation du nouveau-né avec un but pour le CHP de Dany. Et pour cela, les contacts pour le Timoni?
Pour le Timoni, c'est 90 84 67 50.
Et pour le flou,
c'est 96 31 78 18.
Et ceux qui nous écoutent de par le monde entier, pour avoir un numéro de contact?
Pour ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent toutefois nous contacter sur le 90 64 64 23.
Merci. Monsieur le ministre, c'est à vous l'honneur de prononcer la conclusion de cette émission.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Moi, je voudrais rappeler tout simplement que la sécurité est la première obligation de l'État. Et le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le rappelle dans des termes assez éloquents, sécurité sociale, sécurité des personnes, protection des protections sociales. Nous devons tous œuvrer dans ce sens-là. La participation de tous les citoyens est nécessaire à la construction de notre pays. Et aujourd'hui, la petite contribution que les uns et les autres peuvent apporter pourrait aider à atteindre cet objectif ambitieux qui est celui de la croissance de notre pays. Moi, je voudrais souhaiter à vos auditeurs et à tous une très bonne année. Je pense que si nous avons la santé, avec beaucoup de volonté, nous pouvons atteindre nos objectifs.
Merci, Monsieur le ministre. Et pour terminer définitivement, à nos chers amis auditeurs, vous avez écouté aujourd'hui les vœux du chef de l'État que le ministre Ayo Adan nous a amplement commenté. Mais demain, le Club La Presse va trouver du temps pour vous. Quel Togo nous voulons, vous et nous, pour cette année 2023? Je prie, Monsieur le ministre, de se rendre disponible depuis son bureau demain et d'écouter les vœux des Togolais, des auditeurs du Club La Presse, ce qu'ils attendent du gouvernement, des médias, du Club La Presse et de nous-mêmes. Ce que vous attendez de nous pour cette année 2023, nous allons trouver du temps pour vous écouter. Je vous rassure déjà que j'ai apprêté un carnet dans lequel je vais noter soigneusement ce que vous allez nous dire demain. Donc disons, rendez-vous demain, mercredi 4 janvier 2023, si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement.